L'Union calédonienne fait le compte-rendu de son comité directeur organisé le week-end dernier sur la commune de Vaud. Nous en parlerons dès le début de ce journal. La TGC épinglée par le tribunal administratif. Le gouvernement a dû prendre une délibération pour maintenir légalement les taux de la taxe jusqu'au 31 décembre. Les services Internet reviennent progressivement chez Lagoon alors que le fournisseur d'accès Internet a été victime d'une cyberattaque organisée. Les soldes de la saison fraîche commencent samedi. Dans un contexte particulier, la période de promotion se déroulera jusqu'au 22 septembre. Une belle année pour l'observation des baleines. Les cétacés sont nombreux dans notre lagon, contrairement aux professionnels du whale-watching, mobilisés d'abord pour le service des navettes du Mont d'Or. En route pour les Jeux, à une semaine de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris, nous vous proposons d'entendre les athlètes calédoniens sélectionnés en équipe de France. Ce soir, coup de projecteur sur le lanceur Vitoliu Kavakava. Bonsoir et soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. À la une de l'actualité, le comité directeur de l'UC réaffirme son soutien à la CCAT. Réuni samedi à la tribu de Boyenne, à Vaud, il assume la mobilisation de terrain et il ne cautionne pas les exactions, mais il refuse de les condamner, Elisabeth Noir.
C'est la première fois que l'Union calédonienne rencontrait la presse depuis le début des violences insurrectionnelles. Elle faisait cet après-midi le compte-rendu de son comité directeur qui était réuni samedi à huis clos à la tribu de Boyenne à Vaud, mais il n'y a rien de très nouveau. L'Union calédonienne campe sur une ligne dure. Pour elle, tout ce qui se passe depuis 3 mois, c'est la faute de l'État qui s'est entêté à maintenir le 3e référendum et qui a voulu dégeler unilatéralement le corps électoral. Pour l'UC, tout le reste en découle et ses responsables affirment qu'ils avaient prévenu de ce qui allait arriver. Autour de la table, le premier vice-président Gilbert Thuénon, le sénateur Robert Rowy, le responsable des relations extérieures Michael Forest ou encore le secrétaire général Dominique Fauchy. En faisant le bilan du comité directeur, ce dernier à poser les revendications de l'Union calédonienne.
Tout d'abord, c'est le retrait définitif du projet de loi constitutionnelle parce qu'on a des déclarations ambiguës du président de la République depuis ces derniers mois. Il faut qu'il annonce clairement que ce projet de loi constitutionnelle soit retiré. Et le deuxième point, c'est sur la partie de nos prisonniers. Le comité directeur a bien rappelé que la mobilisation, c'était une mobilisation politique et que nos responsables, notamment notre commissaire général et l'ensemble de militants qui ont été déportés et incarcérés en métropole ou en province, ils ont bien répondu à un mot d'ordre politique. Et que dans ce cadre, là, les chefs d'accusation sur lesquels ils ont été accusés sont complètement démesurés. Et le comité directeur a demandé que le statut de prisonnier politique soit reconnu et exigé aussi leur libération.
Retrait définitif du projet de loi constitutionnelle modifiant le corps électoral et libération des personnes interpellées dans le cadre des violences insurrectionnelles. Des sujets que l'UC envisage d'évoquer en septembre avec le président de la République. Mais ce sont ces deux parlementaires, le sénateur Rowy et le député Tchibaou, qui seront ses porte-parole à cette occasion. Ils sont aussi chargés de mettre en place d'ailleurs une commission d'enquête nationale chargée de faire la lumière, et je cite, « sur toutes les actions des milices, des meurtres ou des abus des forces de l'ordre ». Fin de citation. Interrogé justement sur les événements que vit la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai, l'UC parle de conflit colonial et elle assume les actions de la CCAT. Elle déclare qu'il y a eu des débordements, mais elle refuse de condamner les exactions. Elle affirme seulement qu'elle ne les cautionne pas.
Le congrès de l'Union calédonienne de l'île des Pins a mis en place la CCAT, celui de coordination de terrain, qui a conduit toutes les mobilisations pacifiques qui sont faites depuis. La première, c'était le 24 novembre 2023. Toutes ces mobilisations ont répondu à un mot d'ordre pacifique, sur un appel à une mobilisation politique et pacifique. Ce qui s'est passé là, c'est tout simplement, par rapport à tous les alertes qu'on a lancées depuis le 12 décembre 2021, l'Union calédonienne a réaffirmé à son comité directeur qu'on assumait les choses. La mobilisation pacifique qui a été faite, par contre, on ne peut pas cautionner toutes les exactions qui ont été commises. On n'a jamais demandé de détruire notre pays, détruire nos entreprises. L'Union calédonienne a toujours été pour la construction d'un pays souverain et viable.
Donc vous condamnez tous ceux qui ont mené ces exactions?
Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas cautionner toutes les exactions qui se sont passées. Le comité directeur a engagé ses structures à continuer à se mobiliser, mais pacifiquement, mais toujours dans l'apaisement, dans le desserrement de l'étau. Comme avait dit notre commissaire général Christian Thien quand il était encore ici.
Et vous condamnez les exactions ou non?
On ne cautionne pas.
On ne cautionne pas, mais on ne condamne pas l'autre volet du comité directeur porté sur le congrès du FLNKS. Il se tiendra le 31 août à Kaalagomen. Dans ce cadre, l'UC souhaite l'intégration définitive des autres organisations indépendantistes au sein du FLNKS et elle estime que la nomination d'un président du FLNKS est une nécessité politique. Elle soutiendra d'ailleurs la candidature de Christian Théin en rappelant qu'il est aussi commissaire politique de l'Union calédonienne. Le comité directeur de l'UC a enfin affirmé qu'il veut continuer à se donner les moyens de maintenir un rapport de force avec la France sur la scène internationale. Il regrette au passage que l'État ait repris la main sur le programme de la mission du Forum des îles du Pacifique, dont la mission est reportée alors qu'elle était prévue avant la fin de ce mois. Et puis un dernier point, l'Union calédonienne affirme que le 24 septembre, c'est la fête de la citoyenneté et qu'aucune action particulière n'est envisagée ce jour-là, en tout cas pour cette année.
Merci Elisabeth Noir. Dans l'actualité également, une déclaration d'experts de l'ONU qui fait vivement réagir Jean-François Baudin.
Oui, ces quatre experts ont une lecture très orientée de la situation en Calédonie. Ils ne sont pas venus sur place et se déclarent très préoccupés néanmoins par la situation. Il qualifie notamment d'excessif et d'exclusivement répressif les comportements des forces de l'ordre et de la justice depuis le début de la crise. Les quatre experts s'inquiètent par ailleurs de ce qu'ils qualifient comme une tentative de démantèlement de l'accord de Nouméa. Et ils évoquent aussi ce qu'ils appellent eux-mêmes des allégations, à savoir des violences à caractère raciste commises par des milices armées qui ont causé la mort de trois manifestants, des disparitions forcées de Kanaks, ou encore la criminalisation de défenseurs de droits de l'homme kanak par l'application abusive du droit pénal. Une déclaration qui suscite une vive réaction des loyalistes et du rassemblement qui considèrent que cette communication est une faute politique grave qui jette l'opprobre sur le travail jusqu'alors respectable des Nations Unies. Dans un communiqué, ils estiment que le texte témoigne d'une profonde méconnaissance du dossier calédonien et que les experts prennent un raccourci raciste inacceptable. Et ils répondent point par point aux propos des quatre experts de l'ONU. Non, tous les kanaks ne sont pas indépendants. Non, les forces de l'ordre n'ont pas neutralisé des manifestants, mais bien des émeutiers dangereux. Les forces de l'ordre ont agi ces dernières semaines de manière proportionnée dans le but de protéger les Calédoniens des émeutiers indépendantistes. Non, écrivent encore les loyalistes et le rassemblement, l'État ne démantèle pas l'accord de Nouméa, il ne fait que l'appliquer. Dans le respect du droit à l'autodétermination mis en œuvre par l'accord de Nouméa, les Calédoniens ont voté de manière libre, souveraine et éclairée en 2018, 2020 et 2021 pour rester français. Enfin, non, le dégel du corps électoral n'est pas une atteinte aux droits fondamentaux des Kanaks, écrivent encore les loyalistes et le rassemblement. Le dégel du corps électoral est prévu par l'accord de Nouméa. Il octroie la possibilité de voter aux élections locales à des Calédoniens, dont des Kanaks, aujourd'hui privés de ce droit fondamental. Fin de citation.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était réuni en séance hebdomadaire aujourd'hui. On en retiendra plusieurs arrêtés qui concernent notamment l'ASLN et le secteur du nickel, Gilles Ménage.
Depuis le début de la crise, les fours de l'ASLN, on le sait, ont réduit leur puissance et donc les émissions de dioxyde de soufre de la centrale à côté temporaire. Dans ce contexte, le gouvernement a autorisé l'ASLN à ne pas utiliser le fioul à très basse teneur en soufre pendant une période d'observation de 3 mois jusqu'à la fin du mois d'octobre. Une dérogation synonyme d'une économie de près de 120 millions de francs pour l'ASLN. Le gouvernement a également décidé, par arrêté, de permettre au Fonds Nickel, un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, de prêter 600 millions de francs à la Nouvelle-Calédonie afin de stabiliser la trésorerie de la collectivité. Enfin, le gouvernement a réparé une erreur juridique. Le tribunal administratif, en effet, en juin, l'exécutif a abrogé l'arrêté de 2017 relatif à la ventilation des opérations entre les quatre taux de la TGC, car il s'avère que cette répartition doit être fixée par délibération du Congrès et non par arrêté du gouvernement. Le tribunal a donné 6 mois au gouvernement pour s'exécuter jusqu'au 31 décembre 2024. Et pour éviter une hausse brutale et conséquente des prix sur les produits qui bénéficient du taux réduit, si l'arrêté était abrogé, notamment, on pense bien sûr à l'alimentation et au carburant, le gouvernement va donc proposer une délibération du Congrès qui maintiendra les taux actuels jusqu'à la fin de l'année.
Une séance publique chargée demain au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Les élus devront examiner l'acte 2 des mesures d'urgence en faveur de la Caisse locale de retraite. Outre des mesures financières, le projet de loi du pays comprend également le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans d'ici 2030. Mais le Congrès examinera aussi la décision modificative numéro 4 du budget propre de la Nouvelle-Calédonie pour 2024 et le projet de délibération sur le sauvetage des Nercas. Il comprend notamment une augmentation des tarifs de l'électricité qui interviendra par paliers successifs jusqu'au 1er octobre 2026.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Un incendie volontaire ce matin au lycée Dikukewe de Dimbéa. Aux alentours de 10h45, quelques feuilles sèches ont été enflammées dans l'une des cours intérieures du lycée. Événement géré rapidement grâce aux procédures d'entraînement du personnel et des élèves, comme l'explique Frédéric Giraud, directeur du lycée.
Donc on a eu un déclenchement d'alarme incendie pour effectivement des feuillages secs d'un palmier qui ont été inflammés volontairement dans la cour intérieure. Donc ce qui fait qu'on a appliqué la procédure habituelle du déclenchement. Les élèves ont pratiqué donc la manière dont ils pratiquent dans les exercices régulièrement durant l'année, c'est-à-dire sont sortis, sont allés sur les points de rassemblement. Entre-temps, très rapidement, donc un de nos agents a circonscrit l'incendie avec un extincteur. Les pompiers ont été appelés parce que c'est aussi le protocole et étaient là sous 3 minutes. Donc voilà, la source de danger a été éliminée extrêmement rapidement parce qu'il y a de nombreux adultes et il y a aussi des élèves qui sont en situation de vigilance. Donc il n'y a pas de situation de danger permanent, mais il faut encore une fois qu'on soit en vigilance extrême et permanente.
Le calme est revenu très rapidement. Après le déclenchement du feu, les élèves ont pu regagner leur classe. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de ce méfait. Lagoun, toujours fortement perturbée par une cyberattaque. Depuis la nuit de samedi à dimanche, ses équipes sont mobilisées pour remettre les services en route, Charlotte Coulson.
Un travail difficile étant donné l'ampleur de l'attaque. Attaque qui semble avoir été minutieusement préparée par les cybercriminels. Ils ont pris le contrôle des infrastructures et demandent une rançon à Lagoun pour établir les réseaux. Une enquête est en cours et les autorités locales et nationales sont associées à la recherche des coupables. Concernant le fonctionnement de l'entreprise, Internet revient petit à petit chez les clients Lagoun, mais les autres services risquent d'être perturbés plus longtemps. On écoute Stéphane Matteo, le directeur général de Lagoun.
Depuis l'attaque, on a travaillé d'arrache-pied sur la mise en place du service primaire d'un fournisseur d'accès à Internet, c'est-à-dire les accès à Internet, tout simplement. Petit à petit, ça revient à la normale sur cet aspect-là. On n'est pas encore à la fin de notre solution finale. Je dirais que nous sommes encore à quelques centaines de clients impactés. Mais notre souci concerne après notre deuxième activité qui est l'hébergement de nos services et des services de nos clients. Pour le moment, la messagerie Lagoun est en panne, nos services internes aussi, où le travail sera de plus longue durée.
Il reste toujours beaucoup d'interrogations. Pour l'heure, Lagoun ne sait pas si des données ont fuité après cette attaque qui n'a touché que ses infrastructures. Comprenez que pour le moment, aucun client Lagoun particulier ou professionnel n'a été infecté par ce logiciel malveillant.
La fuite de données n'est pas exclue. On n'a pas d'éléments concrets. Mais sur tous les aspects de cette attaque, tant que nous n'avons pas de certitude, nous n'excluons pas l'hypothèse. Nos clients, le conseil à leur donner pour le moment, c'est de bien mettre à jour leur système de sécurité, c'est-à-dire tout simplement leur antivirus. Mais il n'y a pas eu de rebond au moment prouvé sur un client quelconque. Donc cette attaque n'a été que sur les infrastructures de Lagoun.
Et si vous souhaitez joindre Lagoun pour des questions ou des inquiétudes, vous pouvez contacter l'adresse mail contact@ofratel.net.
Une information qui nous concerne directement et qui vous concerne aussi. Les boîtes mail Lagoun de RRB sont inaccessibles pour le moment. En conséquence, nous vous informons que vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse suivante rrb@rrb.nc. N'hésitez pas à utiliser cette adresse dès aujourd'hui pour nous transmettre vos informations, vos publicités, vos avis d'essai ou vos communications. Une seule adresse, rrb@rrb.nc.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, alors que Lagoun est victime d'une cyberattaque, 86% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que la Nouvelle-Calédonie est une cible privilégiée dans le contexte particulier que nous connaissons depuis 3 mois. Ils sont 14% à penser que ce n'est pas le cas. Notre question du jour, est-il normal, selon vous, de sanctionner sévèrement les élus qui tiennent des propos injurieux dans l'hémicycle, comme ce fut le cas hier au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Si vous trouvez que c'est normal, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Vos rendez-vous sur l'antenne d'RRB. Depuis le début de la crise insurrectionnelle, les traumatismes psychologiques sont nombreux. Les émeutes ont engendré des drames humains liés aux agressions, aux pillages et aux incendies. Comment se remettre de tels chocs? Comment les surmonter? Vers qui se tourner? Autant de questions que nous poserons demain à Grégoire Thibouville, psychologue clinicien. Il sera notre invité du matin à 7h30. Ils ont choisi, contre vents et marées, de ne pas baisser les bras, de faire face et malgré les difficultés, de poursuivre leurs activités. Ils sont chefs d'entreprise, commerçants et viendront expliquer leur situation et les défis auxquels ils font face pour se relancer après avoir subi de plein fouet les émeutes du 13 mai. Ce sera demain midi dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Jean-François Baudin recevra notamment Christophe Nourry, patron de la maison Nourry à Apogoty, et Jean-Pierre Debien, patron de l'Agachon à Ducos. Il est 18h, une page de publicité dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité et les soldes qui débutent samedi prochain dans un contexte particulier. À tout de suite.
Si vous êtes prêt à faire plaisir à toute votre famille sur 3 générations, alors vous êtes prêt à profiter des journées plaisir Gémeaux. Jusqu'au 23 août, moins 30% pour 3 articles achetés, moins 40% pour 4 et jusqu'à moins 50% pour l'achat de 5 articles ou plus.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Offre valable sur une sélection d'articles textiles signalés par une étiquette rouge, voire conditions en magasin.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Info soir, Michael Juleski.
Promotion, bonnes affaires, prix cassé, autant de termes annonciateurs des soldes qui arrivent ce samedi, les premières à se dérouler après les émeutes. Mais les Calédoniens ne semblent pas avoir l'esprit aux achats, Léana Colombo.
Et oui, c'est dans une période des plus moroses qu'arrivent ces soldes. Depuis plus de 3 mois, les Calédoniens sont préoccupés par le contexte économique et politique du territoire. Et si par moments, la situation semble plus apaisée, ce n'est pas pour autant que les soldes sont dans l'esprit des gens. La plupart n'étaient même pas au courant que la période des soldes débutait ce samedi.
Je pense qu'il fallait quand même prévenir un peu les gens parce que du coup la vie c'est cher maintenant, surtout à cause des émeutes et tous les événements. Donc du coup si vous n'étiez pas là, j'aurais pas su que c'était samedi.
On était venu là pour la boutique pour voir s'il y avait justement des vêtements parce que ben, tous les enfants grandissent comme tout le monde, hein. Soit on maigrit, soit on grossit pour s'acheter quelque chose, mais on regarde justement. Mais je ne savais pas du tout samedi, alors du coup on va attendre samedi, on va pas acheter aujourd'hui.
On habite à Denver et puis on est loin de tout, ben, du coup ben, on sait pas. Puis la plupart des magasins sur Denver et tout, il y en a plus. Du coup ben, on vient en ville, puis on découvre un peu la vie.
Des commerçants qui remarquent également le désintérêt ou plutôt la méconnaissance des Calédoniens pour ces soldes. Certains ont même décidé pour des raisons logistiques de ne pas participer aux soldes d'hiver cette année. Yaël est vendeuse chez la boutique Melrose en centre-ville.
Partout, personne n'est au courant que c'est les soldes. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de grosses enseignes qui ne vont pas faire les soldes. Pour la plupart, elles ont soit brûlé, bah soit elles n'ont plus de stock puisque tout a été volé. Donc du coup, elles ne peuvent forcément pas participer. Et je pense aussi qu'il y a également beaucoup de magasins qui ne peuvent pas en fait, participer aux soldes parce qu'il y a eu une trop grosse perte à cause des fermetures qui ont duré pour certains un mois, pour d'autres même plus. Pour d'autres encore, sont fermés aujourd'hui. Alors nous, la plupart des clientes qui viennent, on leur dit que c'est les soldes samedi parce que ce n'est pas un secret. Donc on veut quand même leur dire que les soldes arrivent bientôt. Après, il y en a beaucoup du coup qui repartent et qui disent ah, bon, on reviendra au moment des soldes. Mais la plupart des clients, vraiment sur 10 clients, il y en a peut-être 9 qui ne sont pas au courant que c'est les soldes.
Stéphanie Salguero, membre du syndicat des commerçants, se montre optimiste malgré cette période d'incertitude. Pour elle, les soldes restent la meilleure option si les Calédoniens souhaitent faire de bonnes affaires.
Les Calédoniens qui ont soit perdu leur emploi, soit qui sont dans l'incertitude, ça n'engage pas une grande consommation. Pour autant, on se dit que faut que la vie reprenne et... quitte à faire des achats, autant les faire dans des conditions les meilleures, avec des prix les meilleurs également. J'imagine que les bons plans vont être au rendez-vous. On aura clairement l'information le jour J, puisque les soldes, c'est bien réglementé et que les commerçants ne peuvent pas afficher les remises trop à l'avance. Clairement, le centre-ville voit une fréquentation qui revient un petit peu due à la concentration et à la typologie de commerce. Après, il ne faut pas oublier les autres quartiers de Nouméa et plus largement en Calédonie, parce qu'il y a quand même des zones commerciales très attractives qui sont restées et qui abritent des enseignes intéressantes.
Voilà, et si vous voulez profiter des bonnes affaires, pour rappel, la période des soldes se déroulera du samedi 24 août au dimanche 22 septembre.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
À l'arrêt depuis le 13 mai, le monde de la culture reprend petit à petit ses droits. C'est le cas au Centre culturel du Mont d'Or qui relance sa saison, Léo Fichou.
Le premier spectacle de cette nouvelle saison culturelle, Ronde et la Lune, est programmé samedi matin à 10h et l'après-midi à 16h au Petit Théâtre. Un spectacle de marionnettes produit par la compagnie de théâtre Micmac. Paul Barry, chef du service de la culture de la ville du Mont d'Or, avait hâte de pouvoir proposer en toute sécurité de nouveau des spectacles au Centre culturel. Et même si la saison reprend doucement, au Mont d'Or, l'avenir reste incertain. Le service culturel de la ville s'active pour trouver des artistes prêts à se produire de nouveau et donc proposer une programmation variée.
Il a fallu sonder un petit peu tous les artistes, en fait, hein, pour savoir qui souhaitait maintenir les spectacles ou qui souhaitait désister, annuler ou pourquoi pas reporter pour 2025 quand peut-être on aura une meilleure visibilité, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'anticiper des choses quand on n'est pas sûr de comment sera le lendemain. On essaye de limiter les diffusions en soirée pour pouvoir permettre à la fois au public mais aussi aux techniciens de pouvoir rentrer chez eux avant le couvre-feu. Il y a des métiers en jeu, il y a des gens qui ne sont plus payés depuis 3 mois. Et donc, il était important pour nous de réouvrir. Malheureusement, voilà, l'impact budgétaire, il est considérable, hein. On a énormément de recettes en moins cette année, on a beaucoup de dégâts à réparer. Mais bon, voilà, on fait avec, on reste optimiste et on espère pouvoir proposer tout de même des choses dans les mois qui arrivent pour espérer redonner le sourire aux gens.
Et on le rappelle donc, le premier spectacle de la nouvelle saison culturelle du Mont d'Or, c'est samedi à 10h et 16h, Ronde et la Lune, un spectacle de marionnettes pour les enfants. Et pour réserver vos billets, ça se passe directement sur le site internet du Centre culturel du Mont d'Or.
Des étudiants de la province sud prennent la direction de la métropole. Une première partie s'est envolée samedi dernier pour poursuivre des études dans l'Hexagone. Ils vont être rejoints par une trentaine d'autres jeunes qui sont partis hier soir après s'être donné rendez-vous belle la Moselle. Parmi eux, Françoise, Samuel, Naïma et Alain.
Je vais à Fontenay-le-Comte, dans le lycée de Bel Air. Je vais pour un BTS Anabiotech, analyse biotechnologie, sur 2 ans. Et puis j'aimerais continuer sur 3 ans pour faire une licence de biologiste et revenir au pays et ouvrir mon cabinet de biologiste. J'ai hâte, le fait de reprendre l'école, mais quitter ma famille, c'est dur, quoi, comme toujours. Mais bon, c'est un mal pour un bien après.
Je vais à Strasbourg, dans l'INSA, c'est une école d'ingénieur du coup, pour 3 ans minimum. Et je vais faire de la topographie là-bas. C'est pour être diplômé ingénieur du coup. C'est plus dans le génie civil. Mais je pense faire d'abord mon expérience en dehors du pays. Voilà, assez content parce que moi j'attendais ça depuis longtemps, de découvrir de nouveaux horizons.
Je suis excitée, je suis un peu triste de quitter ma famille, mais je suis surtout excitée de partir en France, commencer mes études. Là je pars à l'université Jean Moulin Lyon 3 et je vais faire une licence de japonais. C'est minimum 5 ans. Donc je fais la licence plus le master, c'est obligatoire. De base, mon projet c'est d'être prof de japonais. Après tout dépend, je sais qu'il y a différents masters qui pourront s'ouvrir à moi. Donc pour l'instant c'est prof, mais je pourrais voir toujours sur place.
Pour une licence de l'information et de la communication. Après avoir fini ma licence et mon master, j'aimerais bien revenir ici pour travailler en tant que journaliste. J'essaye de viser le doctorat, donc on essaie 8 ans. Mais bon après, si je peux déjà avoir ma licence, c'est bien.
Ces étudiants sont attendus en métropole par une dizaine de personnes qui vont les aider et les accompagner dans les dernières démarches qu'ils auront à effectuer avant la rentrée scolaire. D'autres étudiants de la province sud doivent partir les 25 et 29 août prochains. Une bonne année pour l'observation des baleines. De nombreux cétacés sont présents dans notre lagon depuis un mois et demi, Léo Fichou.
Effectivement, et aujourd'hui encore, les baleines étaient de sortie. Comme chaque année, les Calédoniens sont nombreux à en profiter pour pratiquer le whale watching. Le bilan de cette saison qui n'est pas encore terminé avec Gilles Wattelot, gérant de la société Aito Charter.
Alors aujourd'hui, super bien, on a fait une belle observation avec 4 baleines assez actives, donc c'était assez sympa aujourd'hui. Bah pour l'instant, oui, je trouve qu'il y a beaucoup de baleines cette année, pour le plus grand bonheur de nous et de nos clients, donc on est assez contents. Oui. Bah pour l'instant, toutes les sorties, on a vu des baleines, donc les clients sont contents, c'est le but. Les week-ends, en fait, on n'a pas trop de mal à remplir les bateaux. Par contre, en semaine, hors vacances scolaires, c'est un peu plus dur que les saisons précédentes. Mais on est quand même satisfait de la fréquentation cette année. D'habitude, on sortait quasiment un jour sur deux en semaine hors vacances scolaires. Aujourd'hui, on sort que 2 jours par semaine au lieu de 3-4 jours. C'est pas si mal que ça. Franchement, on est assez content quand même de la saison.
Et pour ne pas déranger les baleines et leurs baleineaux, il est essentiel de respecter la réglementation provinciale. Les explications de Tiffen Reed, chef de service adjointe auprès de la 3DT de la province sud.
Les règles de base, c'est qu'on n'a pas le droit d'approcher à moins de 100 mètres les baleines. On ne poursuit pas, bien sûr, les baleines. Et une des grosses règles à respecter en tout temps, c'est que dès qu'il y a un baleineau, il faut se retirer de la zone, puisqu'on cherche vraiment à respecter en fait les mamans petits. Et il y a aussi des réglementations au niveau du nombre de bateaux et des heures d'observation qui peuvent être faites autour des individus. Les professionnels sont formés et aguerris depuis un certain nombre d'années maintenant, mais c'est très important de rappeler que ces règles s'appliquent aux plaisanciers. Et je pense que cette année, les gens profitent en fait des petits moments de bonheur en allant en mer. Et il y a plein de personnes qui ne connaissent pas forcément les règles au niveau du whale watching. Et donc c'est vraiment ces personnes-là qu'on souhaite sensibiliser et surtout indiquer aux gens que s'ils veulent voir des baleines en respectant la réglementation, c'est de passer par des professionnels.
Toute la réglementation sur la pratique de l'observation des baleines est à retrouver directement sur le site de la province sud.
Il est 18h passé de 10 minutes, une dernière page de publicité avant de voir tout le sport.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Spécial info-jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal et c'est du sport, Mickaël Juneski.
Et nous évoquons à présent les Jeux Paralympiques de Paris 2024. La compétition débute la semaine prochaine.
En route pour Paris, découvrez les athlètes calédoniens sélectionnés pour les Jeux Paralympiques avec le CTOS, l'Agence Nationale du Sport et la BNC.
L'aventure olympique se poursuit dans la capitale et des Calédoniens seront présents à Paris pour disputer les épreuves d'athlétisme en e-sport. Avant le début de la compétition, nous vous proposons de retrouver le portrait de nos trois représentants engagés, Pierre Ferbank, Félicien Siapo et Vittorio Cavacava. Aujourd'hui, nous retrouvons Vittorio Cavacava qui prépare cette échéance en métropole. À 29 ans, celui qui a commencé l'athlétisme en e-sport assez récemment va connaître le rêve des Jeux au lancer de javelot et au poids. Ancien volleyeur qui jouait en métropole, en National 2, jusqu'à un accident de moto en 2019. Le natif de Wallis a retrouvé la joie de l'athlétisme au pôle handisport de Nouvelle-Calédonie. Il sera en lice en catégorie F57, amputé fémoral. À l'approche du début de l'événement, la préparation s'est intensifiée, nous a dit Vittorio Cavacava.
Moi, je suis prêt et c'est un début pour moi, du coup, ça va, je suis bien. Pour la préparation, on essaye de faire avec, c'est maintenant que c'est court, ben c'est un peu chargé comme ça, ou arrivé à peu près aux dernières semaines, on est en récup et en ce moment c'est accéléré quoi. Alors, on va dire c'est accéléré.
Les Jeux Paralympiques de Paris 2024, ce sera avant tout une grande découverte pour Vittorio Cavacava.
C'est la découverte, je ne peux rien dire, j'attends juste le jour de rentrer là-bas et de voir ce que ça fait. J'ai vu les Jeux Olympiques, ça, c'est pas pareil que les championnats du monde hein, en tout cas. C'est vraiment, et en plus c'est à Paris et t'as tout le public d'ici qui sont dedans et ça va changer un peu. C'est, t'auras du monde quoi derrière toi. Et le drapeau, c'est toi qui le portes derrière toi pour la compétition.
Vittorio Cavacava, à la découverte de ces Jeux paralympiques et du plus haut niveau pour le licencié du club Jules Garnier qui privilégie dans sa vie personnelle avant tout sa famille.
En dehors de mon sport, j'ai ma petite famille, ma vie de famille, ma fille qui est née, elle n'a pas encore un an. En dehors, je travaille pour la Ligue, je suis un agent en logistique et quelquefois j'aide ma chef à faire l'administration. Sinon, à part ça, en dehors, ben, je profite avec mes amis. On part jouer au volley, jouer au pétanque. Je profite de mes temps libres avec ma fille et surtout avec ma fille et ma femme, ma copine.
À son palmarès, il a déjà terminé 5e des mondiaux de 2023 au lancer de javelot et 8e au lancer de poids. Cette année au Japon, il a terminé à la 6e place au javelot, puis au dernier championnat de France à Albi en juillet. Il a décroché notamment le titre en javelot fauteuil. Pourquoi ne pas rêver de podium pour ces Jeux dans la capitale ?
Nous, on est arrivé il y a un mois. On avait nos championnats du monde avant à Kobe et mes résultats étaient... C'était pas trop ce que je voulais. Et au championnat de France, on est revenu ici et c'était à Albi. Et j'ai réussi à faire des perfs avant et pendant la compétition au championnat de France. On a tous le même objectif, c'est d'essayer de gagner une médaille. Il faut le faire, hein.
La finale du javelot messieurs catégorie F57, ce sera à suivre dans la matinée du dimanche 1er septembre pour nous. La finale du poids dans la matinée du samedi 7 septembre avec, on l'espère, des podiums pour Vittorio Cavacava pour sa première participation aux Jeux Paralympiques.
En route pour Paris, découvrez les athlètes calédoniens sélectionnés pour les Jeux Paralympiques avec le CTOS, l'Agence Nationale du Sport et la BNC.
Allez, encore un mot de sport, et c'est de la natation pour terminer. 8 jeunes Calédoniens qui participent au championnat Open de Nouvelle-Zélande, Léo Fichou.
Et oui, depuis le début de la semaine dernière, 8 jeunes nageurs calédoniens sont effectivement à Auckland. Après un stage de préparation sur le territoire, ils se sont envolés pour participer au championnat Open de Nouvelle-Zélande. La compétition a commencé hier et les nageurs calédoniens réalisent pour le moment de belles performances. Des dizaines de records personnels ont déjà été battus, notamment pour Clara Delunel sur 400 mètres 4 nages, pour Inès Kieffel sur 200 mètres brasse ou encore pour Noah Douillard sur 200 mètres nage libre. Même si la concurrence est rude avec des nageurs néo-zélandais et australiens, certains calédoniens sont parvenus à se hisser en finale. Tous les résultats sont à retrouver sur la page Facebook de la Ligue calédonienne de natation.
Merci, il est 18h passé de 16 minutes. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Une météo que vous nous détaillez, Nicolas, bonsoir.
Bonsoir, Mickaël. Alors, cette nuit, sur l'ouest et le nord, le ciel sera bien étoilé. Ailleurs, des nuages circuleront, mais le temps restera sec. Le vent d'est-sud-est se maintiendra localement sur la pointe nord autour de 20 nœuds, avec des rafales à 30 nœuds. Ailleurs, il faiblira progressivement autour de 15 nœuds. Les températures minimales seront comprises entre 12 et 17 degrés sur l'ouest et entre 16 et 21 degrés sur les autres régions. Demain matin, l'ouest sera bien ensoleillé. Ailleurs, les nuages présents en début de journée se dissiperont progressivement. Sur l'ouest, le vent sera faible en début de journée, puis les brises s'établiront autour de 10 nœuds. Ailleurs, le vent de secteur est soufflera entre 15 et 22 km.